إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فما زلنا نقرأ كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وندخل اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود فقال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود كتاب الحدود وقال الشيخ سليمان حفظه الله الحدود هي عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها طيب دونك poursuit بإذن الله explication du livre منهج السالكين l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala basé sur le sharh l'explication du cheikh Sulayman al-Qusayr rahimahullah et nous entrons aujourd'hui dans le chapitre un nouveau chapitre intitulé Kitab al-Hudud le chapitre des peines légales dans l'islam des peines légales طيب donc al-Hudud qui est le pluriel de al-Had c'est une punition défini dans la religion pour ou par rapport à un péché. D'accord ? Al-Hudud ou Al-Had, c'est une punition, un châtiment défini par la législation islamique concernant un péché. Une désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, spécifique. Dans le but, bien sûr, d'empêcher les gens de tomber dedans, de tomber dans ce genre de péché qui nécessiterait donc une peine légale à l'encontre de son auteur. D'accord ? Donc je répète, la définition de l'hudud, ce sont des punitions définies par la législation islamique concernant un péché, dans le but d'empêcher que l'on tombe dedans ou que l'on tombe dans ce genre de péché-là. C'est bon ? طيب. فقال أهل العلم الحكمة من مشروعية الحدود لأنه تزجر الناس عن فعل الجرائم وتطهرهم من المآثم فهي من أعظم مصالح العباد عاجلا وآجلا قال شيخ الإسلام رحمه الله الحدود صادرة عن رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق وإرادة الإحسان إليهم كما يقصد الوالد تأديب ولده ويقصد الطبيب معالجة المريض انتهى كلامه رحمه الله وفيها تحقيق المصالح ومنع المفاسد ونشر الأمن وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا Les savants ont l'habitude de dire que l'objectif, la sagesse qui est derrière justement le fait qu'Allah Jalla Ta'ala ait légiféré ces peines légales en islam, eh bien tout d'abord parce que cela décourage les gens de commettre ce genre d'infraction ou ce genre de désobéissance et de péché vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, ces peines légales servent également à purifier les gens de tout péché. Donc, par conséquent, nous pouvons dire que ces peines légales font partie des intérêts les plus avantageux pour les créatures ici-bas comme dans l'au-delà. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a dit: les peines légales proviennent de la rahma d'Allah envers ses créatures. Allah Jalla wa Ala a légiféré ces peines légales, les a établies dans sa religion, premièrement par rapport à sa grande rahma, à sa grande bienveillance vis-à-vis de ses créatures et à sa volonté d'être bienfaisant envers elles. Comme le serait un père dans l'éducation de son enfant, ou comme le serait un médecin dans le fait de soigner son patient. Et il se trouve dans ces peines légales également le fait de, eh bien, réaliser et atteindre les avantages et les intérêts pour les créatures et d'empêcher justement tout ce qui représenterait un mal ou un préjudice à l'encontre de ces créatures-là, et aussi de diffuser et de propager la sécurité. D'accord? Donc les peines légales servent à ça. Elles servent à atteindre tout ce qui est avantageux et profitable pour les créatures, à empêcher tout ce qui pourrait nuire aux créatures, et ainsi à propager la sécurité au sein des gens. Abu Huraira, radiallahu anhu, a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: une peine légale qui est appliquée sur terre est meilleure pour les gens de la terre qu'une pluie qui tomberait sur eux durant 40 jours ou durant 40 matins. Taïeb? Naam. Pour montrer ici le fait que qu'une peine légale soit appliquée, bien sûr, en respectant toutes les conditions que l'on verra, inshallah ta'ala, qu'une peine légale soit appliquée sur terre est meilleure pour les terriens et les gens de la terre, eh bien qu'une pluie qui tomberait sur eux durant 40 jours. C'est bon? Regardez, c'est clair ou pas? Taïeb. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا حد إلا على مكلف، لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. إذن لا حد إلا على المكلف، المكلف هو البالغ العاقل، فلا حد على الصغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل، وقد تقدم تخريجه. Donc il poursuit l'auteur ici, rahimahullah, il dit: pas de peine légale applicable si ce n'est sur une personne qui est mukallaf. Donc ça, c'est la première condition d'application de la peine légale. Première condition, que la personne soit mukallaf, c'est-à-dire responsable religieusement. Autrement dit, qu'elle soit pubère et douée de raison. Qu'elle soit pubère et douée de raison. Donc, on n'applique pas de peine légale, bien sûr, sur un enfant qui n'est pas pubère, ni sur quelqu'un qui n'a pas sa raison, un fou.
L'handicapé,
Si là, sa raison, il est pubère, non, bien sûr. Non, on parle de celui qui n'a pas sa raison. D'accord? Et cela en vertu du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: la plume est levée pour trois personnes. La première, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. La deuxième, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Et la troisième, le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Et on a vu donc la source et la chaîne de transmission de ce hadith. Walillah alhamd. طيب واضح سي كلا أوبا؟ واضح الحمد لله. هناك استثناء ذكره أهل العلم أن الذمي لا يقام عليه الحد إلا فيما يعتقد تحريمه كالزنا، أما ما يعتقد حله فلا يقام عليه الحد كالخمر. Ici une précision par rapport à ce que celui que l'on appelle dhimmi, c'est-à-dire le mécréant qui vit parmi les musulmans dans un pays musulman, dans une autorité musulmane, Tayyib, et qui verse un tribut en échange. Tayyib. Il dit, les gens de science, ils disent que sur lui, on n'applique pas de peine légale, excepté dans des choses dont il reconnaît et croit son illicéité, ou son illicéité, ni le fait que cette chose-là soit illicite, comme la fornication. Donc le dhimmi, qui vit en terre d'islam, parmi les musulmans, on pourra appliquer la peine légale sur lui, yani le gouverneur bien sûr, qui a l'autorité dans le pays, pourra appliquer la peine légale sur lui, sur des choses dont le dhimmi croit que c'est interdit, comme par exemple la fornication. D'accord? Mais concernant les choses dont le dhimmi croit que c'est permis, dans sa croyance, yani cela est permis, comme par exemple le fait de consommer de l'alcool. D'accord? Le dhimmi, lui, croit que c'est permis de consommer de l'alcool. Dans ce cas-là, on n'appliquera pas la peine légale sur ce dhimmi s'il boit de l'alcool dans un pays musulman en tant que dhimmi. C'est bon? C'est clair? Ouais. Alhamdulillah. Fumaqal multazim. Donc, tout à l'heure, on a dit pas de peine légale applicable sur, excepté sur quelqu'un qui est mukallaf, responsable religieusement. Ça, c'est la première condition. La charte thani, en yakuna multaziman. Ay multazim li ahkam al-islam wa huwa al-muslim wa dhimmi. Bi khilaf al-harbi wa al-musta'min fala tuqamu alayhim al-hudud. Troisièmement, ou plutôt deuxième condition, pour que la peine légale puisse être appliquée, que la personne soit multazim. Donc multazim, c'est qui est le multazim? C'est celui qui s'est engagé à honorer, à respecter les lois de l'islam, les règles de l'islam. Donc, on a bien sûr le musulman lui-même, et le dhimmi, donc celui dont on a parlé précédemment, exception faite donc pour les choses dont il croit que c'est permis. C'est bon? Ça c'est le dhimmi. Par contre, al-harbi, c'est-à-dire celui qui en état de guerre, en situation de guerre contre les musulmans et l'islam, ou al-musta'min, celui qui est entré en terre d'islam avec un pacte de sécurité sous la protection des musulmans, eh bien, ces personnes-là, si ils commettent un interdit en islam qui mériterait une peine légale, eh bien, on n'appliquera pas la peine légale sur cela. Sur celui qui est entré en terre d'islam avec un pacte de sécurité, le musta'min, ou al-harbi, c'est-à-dire celui qui est en guerre contre les musulmans et l'islam. C'est bon? Ça, c'est la deuxième condition, que la personne soit multazim, c'est-à-dire musulmane, d'accord, ou dhimmi, c'est-à-dire mécréante mais vivant parmi les musulmans, en échange du versement d'un tribut. Thumma qal, alimin bit-tahrim. Alimin bit-tahrim. Hada wa shartu thalith. Fala hadda ala man yajhalu tahrim ma fa'ala min al-hudud. لقول عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم لا حد إلا على من علمه أخرجه الشافعي
وعبد الرزاق وعبد الرزاق عفوا والبيحقي. طيب troisième condition pour que la peine légale puisse être appliquée, que la personne soit savante, c'est-à-dire qu'elle sache que la chose qu'elle a commise était interdite en islam, qu'elle en ait eu la connaissance avant de commettre cet acte-là, interdit par Allah tabaraka wa ta'ala. Autrement dit, il n'y a pas de peine légale sur celui qui ignore l'interdiction, le caractère illicite de ce qu'il a fait, tayyib, parmi les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est là par rapport donc à la parole de Omar, également de Ali, également de Uthman, radiallahu anhum, qui ont dit pas de peine légale si ce n'est sur celui qui savait. Yani qui savait que la chose était interdite. C'est bon? Donc celui qui ignorait que ce qu'il a fait était interdit, s'il le fait, est-ce qu'on va pouvoir appliquer une peine légale sur lui? La réponse? Non. Celui qui ignorait que ce qu'il a fait était interdit, il n'y aura pas de peine légale sur lui. D'accord? Donc, cette parole de Omar, de Ali, de Uthman, est rapportée par l'imam Shafi'i, ainsi que Abdul Razzaq, ainsi que le Bayhaqi, rahmatullahi alayhim. طيب فهناك تفصيل قال أهل العلم يحكم بالعلم كأن يعيش في بلاد المسلمين فلا يقبل ادعاؤه الجهل ويحكم بالجهل كأن يكون حديث عهد بالإسلام أو يعيش في معزل عن المجتمع وهذا الضابط حتى لا يفتح باب الجهل لكل مدعي. Puis, il faut savoir une chose également par rapport à ça, est que celui qui vit parmi les musulmans, dans un pays musulman, eh bien, on considérera qu'il sait. Il est censé connaître. Il est censé savoir que telle ou telle chose est interdite par la loi islamique et que cela engendre ou peut engendrer des peines légales. Et donc, même s'il prétendait, qu'il ignorait que telle ou telle chose était interdite, eh bien, cela ne sera pas accepté de lui. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il vit en terre musulmane. Et il est censé connaître ces choses-là. Et on considérera, en revanche, que la personne est vraiment ignorante si, par exemple, elle est nouvelle en islam. Elle vient d'embrasser l'islam, donc il se peut qu'elle ignore certaines interdictions. Ou elle vit, yani, loin de la société. D'accord? En marge de la société. Donc, elle peut ignorer certaines choses. D'accord? Donc ça, c'est la condition pour ne pas justement croire ou permettre à tous ceux qui voudraient éviter la peine légale, eh bien, de prétendre qu'il est ignorant ou qu'il ignorait que la chose était interdite. D'accord? Pour pas permettre aux gens de mentir, en fait, et de dire qu'ils étaient ignorants, alors qu'ils savaient très bien que la chose était interdite. Mais non, ils vont prétendre l'ignorance, ils vont avancer l'ignorance pour esquiver la peine légale. C'est bon? Allez. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه وهذا هو الشرط الرابع هذا هو الشرط الرابع وهو من له سلطة العليا في الدولة كالملك ونحوه وكذلك يقيمه من أنابه الإمام كالقاضي والأمير والوزير ونحوهم نعم quatrième condition. Eh bien, le fait que la peine légale ne peut être appliquée uniquement par l'imam ou son délégué ou son suppléant. C'est-à-dire, donc l'imam, c'est qui l'imam ici? Hein? Eh bien, c'est celui qui détient l'autorité suprême dans le pays, dans l'État islamique en question. Comme le roi, par exemple. D'accord? Le roi, lui, c'est l'imam, yani, qui détient l'autorité, l'ulia suprême, dans le pays, parmi les humains, bien sûr. Voyez? Et autre que cela, parmi les chefs ou les gouverneurs ou les dirigeants. Et également ceux qui travaillent pour eux et qui sont à leur service et qui occupent une fonction leur permettant de d'appliquer la peine légale telle que el-qadhi, donc le juge, el-émir, le chef, le ministre, etc., qui sont tous sous l'autorité du roi ou du président ou du gouverneur du pays. D'accord? Donc uniquement ceux-là ont l'habilitation d'appliquer ou de faire appliquer la peine légale et personne d'autre. C'est bon? Ça, c'était la quatrième condition. Donc ce n'est pas n'importe qui, hein, qui va venir vouloir faire appliquer la peine légale sur tel ou tel criminel ou telle personne qui aurait commis une infraction ou un délit ou une désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Sinon, ça serait le chaos de partout, et cela est bien sûr absolument interdit en islam. C'est bon? Taïe. Tumaqal, illa Sayyid, fa inna lahu iqamatahu bil jaldi khasatan ala raqiqih. Ay li Sayyid an yuqima al hadd ala abdihi aw amatihi, idha kana al hadd bil jald. Ka hadd al qadhf wa zina wa shurb wa nahwiha. Li hadith Abi Hurayra radhiya Allahu anhu marfu'an. إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها الحديث. أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى لا يثرب عليها أي لا يعيرها بالزنا، فلا يجوز له ولا لغيره أن يجمع عليها عقوبة مادية وهو الجلد مع عقوبة معنوية وهو التعيير. وهذا الحكم عام لكل مؤدب. فإذا عمد إلى عقوبة مادية كافية فلا يضيف إليها عقوبة معنوية. طيب. Puis il dit, on a dit donc que seuls pouvaient appliquer les peines légales les gouverneurs et ceux qui détiennent l'autorité. طيب. Excepté As-Sayyid. C'est qui As-Sayyid? Celui qui possède des esclaves. Donc As-Sayyid, avec ses esclaves, eh bien, il a le droit d'appliquer la peine légale sur eux. D'accord? Bil jadd, faqat, mais uniquement par la flagellation. Et en particulier concernant, bien sûr, ses esclaves. Donc le maître a le droit d'appliquer la peine légale sur son esclave, homme ou femme, si bien sûr la peine légale est une peine qui nécessite une flagellation. D'accord? Comme la flagellation concernant al-qatf, la calomnie. Et l'accusation d'adultère, mathalan, ou la fornication, ou la consommation d'alcool, et autres que cela. En vertu du hadith de Abi Hurayra, radiallahu anhu, qui remonte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, lorsque l'esclave femme de l'un d'entre vous a commis la fornication, et que son acte de fornication a été confirmé par des preuves, et bien qu'il et qu'il la fouette, d'accord, qu'il applique la peine légale sur elle, ou la yatharib alayha. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ou la yatharib alayha, c'est-à-dire, et qu'il ne l'insulte pas, et qu'il ne la traite pas de fornicatrice, etc., etc. Autrement dit, qu'il ne réunisse pas entre la punition qui est matérielle et physique, qui est déjà la flagellation, et la punition dans le sens figuré, qui est ta'yir, c'est-à-dire le fait de l'insulter, de l'injurier, etc., etc. Donc ce jugement-là, il est général et il concerne toute personne qui a ce rôle-là d'éducation et d'instruction. D'accord? Donc s'il a usé d'une punition physique suffisante, eh bien il n'a pas le droit d'y rajouter une punition qui est de l'ordre de l'insulte, de l'injure, etc., etc. C'est bon? C'est clair ou pas? Alhamdulillah. ثم قال المؤلف رحمه الله وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر فحد الرقيق في الجلد خاصة نصف حد الحر لقوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وأما الرجم فلا يقام عليه لأنه لا يتنصف puis dit l'auteur رحمه الله Et la peine sur l'esclave, par rapport à la flagellation, c'est la moitié de la peine à l'encontre de celui qui n'est pas esclave, qui est libre. L'esclave, lui, c'est la moitié. D'accord? C'est la moitié. Donc la peine légale sur l'esclave, dans la flagellation en particulier, eh bien c'est la moitié de la peine concernant la personne qui est libre, el-hur. Et cela par rapport à la parole d'Allah. Tabarak wa ta'ala de la sourate An-Nisa. Dans le sens du verset. Où Allah tabarak wa ta'ala, il dit. Si une fois mariées, elles commettent l'adultère, elles subiront la moitié des amants. Si une fois mariées, elles commettent l'adultère, elles subiront la moitié des amants. Et si une fois mariées, elles commettent l'adultère, elles subiront la moitié de la peine infligée aux femmes de condition libre. Elles subiront la moitié de la peine infligée aux femmes de condition libre. D'accord ? Quant à Rajmu, qui est la lapidation, eh bien, on n'appliquera pas la lapidation sur les esclaves. Car il est impossible de diviser en deux, d'accord, la lapidation, rajm. Donc, il n'y a pas de lapidation à l'encontre des esclaves. Wallahu ta'ala alam. Est-ce que c'est clair? La flagellation.
Ah.
C'est bon?
La moitié des amants, c'est la flagellation. C'est un rapport à la flagellation ou la lapidation?
La flagellation. On a dit que la lapidation, il était impossible de la diviser en deux. Car la lapidation entraîne obligatoirement le maut, la mort. D'accord? Alhamdulillah. Donc on va arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته